La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots qui se prépare à retrouver la puce à l'oreille que Lucie Bouteloup nous amènera tout à l'heure et qui va s'intéresser à de la littérature d'ici là, avec un roman écrit en français par une Tchèque ou une Française d'origine tchèque, c'est Lenka Horňáková Sivad, qui a écrit Une verrière sous le ciel, qui est paru aux éditions Alma. Bonjour Lenka Horňáková Sivad, vous voyez comme je fais un effort pour bien prononcer votre nom, hein, j'y mets tout mon cœur.
Bonjour et vous réussissez très bien.
Bon, merci beaucoup. Alors, c'est votre deuxième roman qui parle d'une jeune fille qui part de Prague, qui a 18 ans, elle est envoyée en colonie de vacances, elle visite Paris et au moment de reprendre le train pour rentrer chez elle, elle décide de ne pas rentrer et elle va se promener au Père-Lachaise. Ça commence de façon peut-être un petit peu improbable, mais tout à fait réaliste. Et une fois qu'elle est au Père-Lachaise, elle rencontre, je ne sais pas, une bonne fée ou une mauvaise. Elle rencontre un personnage tout à fait étonnant. Et là, on a l'impression justement qu'on bascule dans une sorte de conte. Pas forcément un conte de fées, mais dans un conte qu'on n'est plus dans le roman réaliste. Et j'ai eu l'impression que pendant tout le cours de votre roman, vous oscilliez entre justement ce réalisme, ce roman possible est quelque chose qui s'assimile au conte, à quoi vous faites d'ailleurs un clin d'œil avec cette expression « il était une fois que vous aimez tant » à l'extrême fin du roman. Alors, est-ce que c'est un conte ou est-ce que c'est un roman, Lenka Horňáková? Oh, ça va, je me trompe maintenant. Horňákanová. Non, c'est pas ça.
Horňáková.
Horňáková. J'en avais rajouté un.
Bah, vous avez très bien résumé le roman. Je pense que c'est entre un conte philosophique et roman initiatique. Et là, les deux se rejoignent. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'éclosion de cette jeune fille en un être libre, un être accompli qui assume ses choix, qui pouvaient au départ peut-être sembler un peu caprice ou sans une décision ou sans un fondement apparent. Et elle se transforme, elle se métamorphose, elle grandit, elle s'affirme dans cette oscillation entre Prague de souvenirs, Paris fantasmé et la réalité qui la rattrape, parce que le réel nous rattrape toujours. Comme elle le remarque d'ailleurs, déjà au début du roman, elle a cette intuition. Elle s'est dit, je me laisse un petit moment pour vivre Paris rêvé parce que la réalité nous attrape toujours. Et donc c'est ça, c'est le cheminement entre son intérieur, ses souvenirs, et le grand questionnement entre la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, ce qu'on pense, ce qu'on pensait, ce qu'on voit, ce qu'on vit, et voilà où se trouve la vraie vie, peut-être la vérité, la réalité, la liberté.
Alors il semble que tout votre roman se place sous le signe du double. D'abord peut-être cette double appartenance à la France et à la République tchèque, même pas tchèque puisque ça se passe au moment encore de la Tchécoslovaquie, oui, à l'extrême fin des années 80, mais avant le changement de régime. On a deux capitales qui clignotent l'une par rapport à l'autre, c'est Paris et Prague. On a deux fleuves, c'est la Seine et la Vltava, et puis on a deux langues qui sont bien sûr le français et le tchèque. C'est le deuxième roman que vous écrivez en français, vous qui êtes donc de langue maternelle tchèque, et il est encore traversé par de multiples interrogations linguistiques à propos justement de cette écriture. C'est quelque chose à quoi vous ne pouvez pas échapper, vous avez l'impression?
Mais je pense que cette double culture linguistique et double culture tout court me rattrapera toujours parce que je suis formée par elle, et donc là dans ce roman-là, elle fait effectivement elle prend une grande place parce que cette jeune fille, elle se demande est-ce que le monde, elle peut le décrire, dans quelle langue elle va le prendre, elle va le décrire et suivant l'endroit où elle se trouve.
Et on ne sait jamais d'ailleurs si elle parle ou si elle est muette. On ne sait jamais quand on l'entend parler si c'est du monologue intérieur ou si elle dialogue avec les gens qu'elle a rencontrés dans cette espèce de café fantomatique dans lequel elle échoue.
Tout est effectivement en devenir quelque part en elle. Elle arrive armée d'une certaine manière, mais il faut éprouver ses armes, il faut éprouver ses pensées, il faut éprouver aussi ses capacités de parler, de s'exprimer, d'être entendue, d'être vue, d'exister tout simplement. Et je pense qu'elle a les interrogations, à mon avis, qui se posent tout un chacun à partir du moment où on croise ou on traverse une frontière qui nous est imposée, qu'on le pense ou que ça soit vrai. Il suffit de s'exiler peut-être dans un autre milieu, de quitter son village, d'aller en ville, de sortir de ce qu'on pensait être pour toujours son chez-soi. Et à partir du moment où on le quitte, il y a énormément de questions qui arrivent. Et donc elle se les pose, elle se heurte à ces questions. Et par moments, elles arrivent dans telle langue, et par moments, les réponses sont dans une autre langue. Et donc, elles se modèlent dans ces espaces, des différentes justesses d'expression. Comment elle exprime ceci ou cela, ça sonne bien ou pas bien, et elles se forment là.
La danse des mots avec cet extrait de Smetana qui évoque la Prague la plus irrémédiablement romantique qui soit, avec cette rivière qui la traverse et qu'on évoquait tout à l'heure. Là, allez, j'oserais pas la prononcer. Dites-moi comment on appelle la rivière.
Vltava.
Vltava. Bon, je vais prendre quelques cours de langue tchèque. Est-ce que vous accepteriez, puisque vous venez donc de faire paraître ce roman Une verrière sous le soleil, est-ce que vous accepteriez de nous en lire un petit paragraphe?
Avec plaisir. Alors par moments, quand une fantaisie me prend, je n'efface pas complètement mes inscriptions. Elles affleurent sous le menu du jour, le sandwich jambon beurre, certains jours une tranche de fine d'emmental. Ça fait des sandwichs plus épais, plus riches et nourrissants pour celui qui sait voir et lire à l'invisible. Comme l'autre jour, le sandwich à la carabistouille. C'est Jacob ou Yacoub qui prononce ce mot de temps en temps, je crois pour le plaisir, donc pas nécessairement à bon escient. J'ai pensé que cela signifiait le bruit provoqué par la brouette pleine de cailloux lâchés dans un escalier, ou quelque chose d'aussi déchaîné. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'aime surtout sa sonorité. Voilà donc des sandwichs au beurre et quelques mots, quelques traces glissées dans la mite padouillette.
Alors, pourquoi vous avez employé ce mot de carabistouille? Est-ce que ça vous est venu spontanément, ou est-ce que vous êtes dit... Je vais prendre cette pépite, ça m'aidera à continuer mon roman. Quel est le rapport entre l'écriture et l'invention de la fiction et les objets presque concrets qui servent de pierre à l'édifice. Et que sont les mots?
Ce mot, je l'ai entendu en France, évidemment, pour la première fois par les personnes qui m'ont été très chères et qui ne sont plus de ce monde. Donc, je pense que c'est un mot un peu désuet, peut-être qui n'est plus utilisé couramment, je ne sais pas. Et j'ai trouvé vraiment qu'il avait une très très jolie sonorité et j'ai mis un certain temps à le comprendre. Et peut-être que je ne le comprends pas toujours très bien. Et j'aime bien ces lacunes, cette imprécision, on va dire, parce que c'est là où l'imaginaire peut jouer.
Alors, juste après, vous parlez, dans la phrase qui suit d'ailleurs, de vos tours de magie linguistique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Avec quoi est-ce qu'on réalise un tour de magie linguistique?
Avec des petits glissements. Avec les glissements de sens, avec les glissements de son et des sonorités, je pense que la langue est un jeu. On essaye de contenir le monde dans la langue et le monde nous échappe et la langue nous échappe. Enfin, donc c'est un ajustement permanent. Et même écrire un roman, c'est un ajustement, c'est un essai de dire notre intention. C'est reformuler le monde au mieux ce qu'on peut. Et donc même un roman, c'est en fait un tour de magie linguistique. C'est un essai de dire des choses, de se faire entendre, comprendre. Et je crois que quand on apprend la langue, on découvre d'abord la sienne, parce qu'on se dit « Ah, mais ça se dit pas comme ça, ceci ne veut pas dire exactement la même chose. » Et on voit les espaces qui sont entre les mots qui disent, on va dire, la même chose dans la langue, et surtout ceux qui ne disent pas pareil. Et donc, là, c'est des espaces magiques, parce qu'ils sont très peu... on va avoir du mal à les capter, à les expliquer et à les transmettre. Et quand ça arrive, c'est magique de nouveau.
Alors, Lenka Oniakova-Sivad, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas changé de langue, ou tout au moins si vous n'aviez pas... si vous ne vous étiez pas approprié une seconde langue par rapport à la première, est-ce que vous seriez quand même écrivain? Parce que je vois bien que dans ce deuxième roman, tout est là, de temps en temps, de façon sous-jacente par rapport à ce changement de langue et par rapport à cette interrogation sur la langue. Par exemple, l'héroïne à un moment écrit sur une ardoise « Je veux le livre ». Et puis, elle finit par comprendre qu'on dit pas « Je veux le livre », ça veut rien dire. On dit « Je veux des livres » ou « Je veux un livre ». C'est sa première leçon de français en France, dites-vous. Eh bien, j'ai l'impression que c'est cette interrogation qui revient toujours, qui suscite votre écriture.
Oui, mais héroïne, elle cherche à naître à soi. C'est vrai que ça, c'est la première question toujours et qui est obsédante pour elle. Et je crois que moi, je serais probablement aussi écrivain, même si j'avais été restée que dans une seule langue. Peut-être c'est la poésie qui m'attirerait beaucoup, parce que là, justement, on joue avec les images et avec... à dire au plus précisément ce qui est le plus imprécis et le plus difficile à exprimer. Donc il y a cette, je crois que ça s'apparente un peu d'aller sur un terrain, d'écrire dans une autre langue, c'est aussi de se mettre un peu en danger, c'est de se découvrir, de se mettre à découvert peut-être.
Et votre héroïne est dans cette situation et elle joue de cela d'ailleurs pour nommer les personnages qui l'entourent. Elle parle à un moment de Monsieur On. Si elle n'était pas tchèque, elle dirait pas Monsieur On. Qui est-ce, Monsieur On?
Monsieur On, c'est un passeur. C'est un formidable passeur de savoir, de l'amour de la langue française. C'est un personnage un peu mystérieux dont on ne saura pas grand-chose, sauf l'essentiel, qui lui apprend justement à écouter le monde, à lire la poésie et qui lui apprend la langue française.
Et à un moment, il y a cette histoire tout à fait étonnante, à peine une histoire, quelques lignes, sur une accouchée qui, au moment justement où elle donne naissance à son bébé, la souffrance est si forte qu'il y a une exclamation qui surgit dans sa langue maternelle, alors qu'elle ne la parle pas et qu'elle est censée la cacher. Eh bien, la douleur fait qu'elle se trahit, et elle se trahit par sa langue maternelle. Une langue maternelle, ça vous trahit?
Je pense qu'elle peut nous jouer des tours comme ça. Elle peut nous, on va dire, prendre des pourvus. Et on peut appeler ça trahison. Dans ce cas-là, oui, c'était une trahison, mais je crois que c'est quelque chose qui ne nous quitte pas et qui est toujours là et dont on ne se débarrasse pas, me semble-t-il, et que justement, même si on peut me dire j'ai oublié la langue, je veux plus rien avoir avec mes racines, enfin, parce qu'il peut y avoir des histoires très douloureuses, je l'entends, mais je crois qu'elle nous habite quand même de manière irrémédiable, quelque chose qui ne se ne s'enlève pas, ne se déracine pas. Et je suis assez persuadée qu'il existe des situations où elle surgit, ressurgit de nouveau, où elle est là. Parce que c'est le premier, en fait, premier appellation du monde, c'est dans cette langue-là.
Alors, il semble que votre roman soit traversé par un certain nombre d'images qui sont symétriques les unes des autres. On ne sait jamais trop qu'est-ce qui est métaphore de quoi. La jeune fille qui est au centre de votre livre se met à fréquenter un café avec une faune assez étonnante et puis à se lier avec un peintre pour lequel elle pose. Et pour poser, elle se déshabille et elle se montre nue devant ce peintre qui va la peindre. Ça m'a fait penser quand même cette double peau, ces vêtements qu'elle a, qui lui sont donnés par la fée qu'elle a rencontrée au Père Lachaise, qu'elle enlève devant le peintre. Ça fait penser bien entendu à cette nouvelle langue dont elle s'enveloppe, dont elle se revêt, et parfois qu'elle essaye d'enlever. Est-ce qu'à votre avis, il y a aussi une image double?
Certainement, parce qu'en fait, sa nudité, quelque part, la protège, et en même temps, elle cherche son contour aussi corporel. Mm-hmm. Évidemment, elle est bon, l'esprit, elle est aussi ce corps qu'elle met en avant et qui est étonnamment protégé par la nudité. Elle est peut-être plus mise en danger dans des vêtements qui ne sont pas les siens. D'ailleurs, la scène dans laquelle elle est vraiment, se rencontre avec son propre corps, c'est quand elle se rend compte que les contours de quelqu'un d'autre ne lui vont pas, qu'elle a ses propres contours. Et donc c'est quelque chose qui est très important, mais c'est pareil, ça fait partie d'un cheminement. Quand on sort d'adolescence, on va vers l'âge adulte, je pense qu'on a des questionnements tous, à un moment donné, sur ce qui nous sommes, qui on est. Chez elle, c'est vécu d'une manière exacerbée et dans des images comme ça très, très fortes.
Et la langue française a une drôle de figure d'ailleurs dans votre roman, puisqu'elle est parlée, elle est écrite dans votre roman, puisqu'il est en français. Il y a un certain nombre de personnages qui la traversent, et en particulier une sorte de vieux russe polyglotte qui dit de lui-même « Mon père parlait allemand, hongrois, grec, russe, turc, arabe aussi, et français, un peu anglais, pas mal serbe, dans le désordre. Ma mère, pareil. » Il considérait le français comme la seule langue étrangère parmi toutes celles qu'il maîtrisait. Tu sais pourquoi ? Parce que pendant longtemps, il ne connaissait aucun français, seulement des gens parlant cette langue. Les autres étaient mes langues maternelles, paternelles, grand-paternelles, que veux-tu ? À part ça, je voyageais léger. Alors, est-ce que le français a eu cette silhouette pour vous parfois ? D'une langue qui est uniquement véhiculaire, d'une langue qui est une langue pont et pas une langue maternelle ?
Oui, en tout cas, pour moi, c'était une langue que je connaissais à travers les sons, mais je connaissais personne pendant longtemps, jusqu'à l'âge adulte, qui vraiment parlait cette langue, et d'autant plus qui était français, dont la langue était la maternelle. Parce que je pense que quand on utilise la langue qui n'est pas notre langue maternelle, on l'utilise pas comme sa langue maternelle. Justement, un français va dire des choses d'une autre manière. Elles vont être chargées dans la construction de phrases, évidemment, dans le quotidien, etc. Ça va pas s'entendre, mais dès qu'on va rentrer dans une discussion, dans des sujets plus difficiles, plus élaborés, on va, à mon avis, vite s'apercevoir que ce côté primauté de nos langues maternelles ou de nos cultures maternelles ou premières surgit et est teinté. Donc, voilà, oui, ça correspond.
Eh bien, merci beaucoup, Lenka Oniakova-Sivad, pour ce livre, ce roman, Une verrière sous le ciel, qui vient de paraître aux éditions Alma Éditeur, dont vous nous parliez donc dans La danse des mots, et qui va nous permettre maintenant de rejoindre la puce à l'oreille que nous apporte Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors aujourd'hui et pour les 3 semaines à venir, la puce vous emmène sur les monts de l'Olympe et va vous faire réviser vos cours de mythologie.
Bon, c'est pas difficile, j'ai tout oublié.
Et pour ce fabuleux voyage, eh bien c'est Marie-Dominique Poré qui nous accompagne, puisqu'elle vient de faire paraître aux éditions First « Être né de la cuisse de Jupiter » et 99 autres expressions héritées du latin et du grec. Être né de la cuisse de Jupiter, avouez que cette expression dont elle a tiré le nom de son ouvrage méritait bien une première puce. Et pour ne pas m'attirer les foudres du dieu des dieux, eh bien j'ai demandé à la classe de CM2 de Myriam Houbrick, à l'école élémentaire Pierre Foncin, à Paris dans le 20e arrondissement, ce qu'elle pensait de cette expression. Des petits qui gardent les pieds sur terre.
Comme Jupiter, c'est gros comme planète. Peut-être ça veut dire avoir des grosses cuisses.
Ça veut dire avoir des gros mollets, des grosses cuisses et être un peu prétentieux. Parce qu'il y a une autre expression qui veut dire on a les chevilles enflées ou les mollets enflés.
C'est qu'on est différent parce que Jupiter, elle est rond.
Quand tu nais, bah, t'as une grosse cuisse. Et du coup, bah, tes jambes, ils sont un peu plus longues.
Se croire plus grand que les autres parce que Jupiter, c'est grand.
Moi, je pense qu'être né de la cuisse de Jupiter, ça peut être un peu être prétentieux parce que en y réfléchissant, je prends Jupiter plutôt comme la déesse. Donc, être né de la cuisse de Jupiter, ce serait être prétentieux et croire qu'on est un peu comme une déesse. C'est peut-être une expression pour peut-être parler d'un handicap, je dirais. Enfin, un peu comme avoir un souffle au cœur, peut-être.
Jupiter, c'est une planète bleue ou rose. Non, bleue.
C'est peut-être une expression pour dire qu'on est né beau parce que Jupiter, c'est une déesse.
La puce à l'oreille, ta-ta-ta-ta.
Alors Marie-Dominique Poré, beaucoup d'idées, des bonnes réponses aussi, mais avant de dévoiler le sens, eh ben peut-être qu'il faut préciser de quel Jupiter il s'agit. Jupiter, cette planète bleue, rose, on ne sait pas, ou alors
non,
ce
non,
dieu.
Non, bien sûr, c'était le dieu, non pas une déesse, mais le dieu des dieux, qui s'appelle Zeus en grec, hein, et Jupiter, ça vient de Diao-Plater, qui veut dire le père de la lumière.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette expression?
Alors, cette expression...
Être né de la cuisse de Jupiter, faut dire qu'elle est quand même assez invraisemblable.
D'autant qu'on peut aussi maintenant la trouver sous la forme se croire sorti de la cuisse de Jupiter, sauf qu'il ne s'agit pas du tout d'une déformation physique, mais en fait, on se trouve là avec la première histoire du premier père porteur. En fait, c'est Jupiter qui aurait pris le fœtus du petit Dionysos qui était chez sa mère. Et comme sa mère avait été en tous les cas...
Qui était donc dans le ventre de Sémélé.
Voilà, qui était Sémélé. Et Sémélé, donc, elle avait une liaison avec Zeus. Et donc, la femme de Zeus, qui en avait un petit peu assez, Héra, avait décidé de petite revanche. Et donc, elle avait dit à Sémélé, si tu veux voir vraiment Jupiter, alias Zeus, tu vas le voir dans toute sa nudité. Mais la nudité de Jupiter, c'est la foudre, c'est le tonnerre. Et le jour où elle lui a demandé ça, elle l'a vu effectivement Jupiter dans sa gloire, mais donc elle s'est retrouvée elle-même enflammée, alors qu'elle portait
enflammée
en elle-même
comme une torche
comme
vivante,
alors qu'elle portait
littéral.
voilà, alors qu'elle portait dans son corps ce bébé, et donc Zeus est accouru, et c'est lui qui effectivement qui a pris l'enfant et qui a assuré la gestation de Dionysos dans sa cuisse.
Oui, il a voulu sauver cet enfant.
Sauver cet enfant qui était quand même le sien.
Qui était dans le ventre de cette mère,
de cette
qui,
mère
était
voilà,
qui était en train de se
consumer. Voilà. Et pour sauver l'enfant, il a décidé que cet enfant poursuivrait sa gestation dans sa cuisse.
3 mois, il paraît. C'est quand
voilà,
même
c'est
long.
Ça. Donc c'est une gestation originale, très nouvelle, très très moderne. Voilà, qui peut-être nous emmènera.
Pourrait
un
nous
jour,
donner des idées.
Donnera des idées effectivement. Et c'est de là qu'est né effectivement Dionysos. Et Dionysos a une étymologie possible qui veut dire qu'il est deux fois né parce qu'il est né déjà par sa mère et il est une seconde fois né parce qu'il a pris naissance après par Zeus.
D'où l'importance de Dionysos.
Alors d'où l'importance
le fait aussi
de Dionysos,
qu'il soit aussi le fils d'un dieu.
Bien sûr.
Parce que sa mère était mortelle.
Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est un demi-dieu.
C'est
mais
un
qui
demi-dieu,
après est devenu
mais
quand
donc...
même le dieu. Parce que voilà, dans les Olympiens, il a toujours été un tout petit peu méprisé parce qu'il est quand même un dieu un peu à la marge, on dirait, hein, des normes. C'est un dieu d'exubérance, d'ivresse. Et effectivement, bon, voilà, il a toujours été un petit peu mal considéré par les autres, mais il s'est affirmé. Et c'est vrai que se croire né de la cuisse de Jupiter, c'est effectivement être assez imbu de sa personne.
Se prendre pour un demi-dieu.
Voilà, se prendre pour un demi-dieu, ou on dirait peut-être maintenant se prendre pour la 8e merveille du monde. Si on voulait prendre une acception plus profane, par exemple.
Se prendre pour le premier moutardier du pape.
Voilà, ça c'est l'équivalent avec, voilà, ou pour la
être
reine de Saba.
Être un but soi-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire dans un registre beaucoup plus populaire, péter plus haut que son cul?
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, j'aurais pas osé le dire, mais c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça.
On croit un petit peu que tout tourne autour de son nombril, tout tourne autour
exactement,
de soi.
Exactement.
Et alors effectivement, cette histoire de cheville, quand on reproche à quelqu'un qui est prétentieux, on dit souvent qu'il a les chevilles enflées.
Voilà, parce donc, qu'il se, voilà. Il, bon, je vais vous dire encore plus peut-être, il se la pète.
Il se la pète.
Voilà, pour rendre l'expression très familière, mais c'est cela.
Alors, est-ce que vous savez qu'en Angleterre, on croit qu'on est la moustache du chat?
Oui, ben voilà, c'est ça, les équivalents,
j'ai trouvé ça assez mignon.
C'est mignon, oui.
Ou on pense qu'on est l'ampoule la plus brillante sur l'arbre de Noël.
Joli.
Ou alors qu'on est les genoux des abeilles. Alors là, je vois pas bien l'image, mais...
Non, vous connaissez pas.
En Espagne, on se prend pour la reine des mers.
Oui.
Au Brésil, on pense avoir le roi dans le ventre. Donc, on est toujours, effectivement, oui, autour de cette histoire de mythologie.
Oui.
En Argentine, on se prend pour le roi des Prusses.
Voilà, c'est ça.
Et au Pays de Galles, on dirait que le soleil se levait dans son cul. Bon, alors là, on est dans un registre beaucoup plus populaire.
Voilà. Beaucoup plus familier et populaire.
Eh bien, merci Marie-Dominique Poré de nous avoir remis les pieds sur terre. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer dans leur librairie votre ouvrage « Être né de la cuisse de Jupiter et 99 autres expressions héritées du latin et du grec » paru aux éditions First. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle expression tirée tout droit des monts de l'Olympe. Rien que ça. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas d'écouter ou de réécouter les puces à l'oreille en vous connectant sur le site de RFI Savoir, Savoir avec un S, en tapant la puce à l'oreille dans le moteur de recherche. Bonne semaine à tous.
Merci à vous.
Merci donc Marie-Dominique Poré et Lucie Bouteloup pour cette cuisse de Jupiter et merci à Alenka Orniak. Orniakova Sivad pour La Verrière sous le ciel qui vient de paraître aux éditions Alma dont elle nous parlait dans la première partie de cette émission La Danse des mots qui vous est proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.